Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Studio Kalangu et ses radios partenaires reçoivent le général de brigade Mamari Camara, commandant adjoint en chef de la force anti-jihadiste conjointe du G5 Sahel. Bonjour, mon général.
Bonjour, monsieur.
Mon général, moi, c'est Tarnan Foudaï Ahmed. Je suis journaliste à Studio Kalangu. Une fois de plus, veuillez vous présenter vous-même à nos auditeurs.
Je suis le général de brigade Mamari Camara. Je suis le commandant adjoint de la force conjointe du G5 Sahel depuis le mois d'août 2019.
Voilà, enchanté mon général. Donc aujourd'hui nos discussions vont se porter effectivement sur la force conjointe du G5 Sahel. Mon général, nous allons commencer par la première question, à savoir quelles sont les principales missions de la force conjointe antiterroriste du G5 Sahel.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire face à leurs défis communs de sécurité et de développement, le G5 Sahel a été créé en février 2014 par cinq pays de la bande sahélo-saharienne, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Et en 2017, le G5 Sahel s'est doté d'une force conjointe forte de plus de 5000 hommes, composée de 8 bataillons venant de ces pays et d'une composante police. Elle opère dans une zone d'opération discontinue divisée en 3 parties. À l'est, nous avons 100 km de part et d'autre de la ligne frontalière Niger-Tchad. Au centre, 100 km de part et d'autre des lignes frontalières Burkina Faso-Mali, et Mali-Niger et Niger-Burkina Faso. Et la force a reçu pour mission de combattre les groupes armés terroristes et les groupes criminels organisés, appuyer le retour de l'autorité de l'État et enfin protéger l'aide humanitaire.
Voilà. Vous l'avez évoqué, mon général, appuyer le retour de l'État. Est-ce que depuis son installation, aujourd'hui, la force conjointe du G5 Sahel a obtenu les résultats escomptés?
Depuis sa mise en place, et la force conjointe a conduit beaucoup d'opérations. À ce jour, on est à environ 24 opérations et ces 7 derniers mois, on a eu à conduire 9 opérations. Et sans faire de décompte macabre, nous avons eu à neutraliser beaucoup de terroristes, détruire leurs bases logistiques et de fabrication d'engins explosifs. Et on a détruit ou saisi plus d'une centaine de motos.
Mon général, bien que des succès aient été enregistrés par cette force et ses partenaires, d'autres renforts comme l'opération Takuba sont attendus. Est-ce que cela prouve que cette force a encore un besoin en ressources humaines?
Vous savez qu'un renfort en équipement ou en troupes est toujours la bienvenue pour une force. Et surtout que ces nouveaux engagements vont soulager les efforts énormes consentis par nos forces armées, la force conjointe et ses partenaires.
Dans l'accomplissement de chaque mission, au laissement général, on rencontre souvent des difficultés. À ce niveau, quelles sont celles rencontrées par la force conjointe du G5 Sahel?
Dans la lutte contre le terrorisme, les deux principales difficultés restent l'immensité de la zone d'opération et le caractère transfrontalier de la menace. Justement pour cette raison que nos chefs d'État ont mis en place cette force conjointe qui opère le long des frontières.
Voilà. Cette force intervient aussi dans une zone très compliquée, si je peux le dire, à part le désert avec des forêts. Comment vos éléments s'en sortent dans cette zone?
Notre avantage est que nos bataillons sont issus de nos pays et ils sont implantés dans leur pays d'origine, donc ils ont une bonne connaissance du terrain et également de la population.
Voilà, vous l'avez évoqué mon général, la population, dans une guerre comme celle-ci, il faut toujours une bonne collaboration avec les populations locales. À ce niveau, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Quel est le niveau de collaboration entre la force conjointe du G5 Sahel et les populations qui se trouvent dans ces zones d'intervention?
comme je viens de vous le dire, que chaque battant est implanté dans son pays d'origine. Donc, il n'y a pas de problème de légitimité de leur présence parce qu'ils opèrent parmi la population dont ils viennent. Donc, la coopération est excellente avec les populations.
Voilà. Je vais continuer dans ce sens. La force conjointe auparavant avait son siège à Bamako, mais suite à des manifestations de population assez variées, du moins, le siège de cette force a été conjoint. Est-ce que cela ne prouve pas qu'il y a un petit problème entre les populations et cette force?
Non, ce qu'il faut savoir, c'est que le transfert du poste de commandement et de la force conjointe était prévu pour des raisons de facilité de commandement, de communication. Parce que vous voyez, la zone d'opération, c'est toute la bande sahélo-saharienne. Et c'était prévu de l'amener à Bamako. Ça n'était pas du tout lié à des événements auxquels on les lie. Donc c'était une décision du commandant de la force conjointe de l'époque qui pensait que pour mieux commander ses troupes, il devait venir à Bamako. Surtout qu'il était dans une zone où il avait déjà un de ses grands subordonnés. Peut-être sa présence aussi pouvait un peu influencer sur les opérations. Donc il avait décidé bien avant ces événements que de venir à Bamako.
Mon général, ces derniers temps, les forces partenaires de la force conjointe du G5 Sahel ont été accusées comme auteurs de certaines exactions extrajudiciaires au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Comment vous interprétez cela?
Il revient aux forces armées nationales de répondre à ces accusations. Ce que je peux vous rassurer que du côté de la force conjointe, nous sommes fortement engagés dans le respect des droits de l'homme et les droits des conflits armés. C'est pour cela que tous les bataillons sont formés dans ce domaine avant leur engagement. Et nous avons des gendarmes au niveau de tous les bataillons sur le terrain. Et les actions de nos troupes sont encadrées par des règles strictes d'usage de la force et le rôle du commandement est de veiller tous les jours au respect de ces règles.
Mon général, est-ce que c'est dans ce sens-là que la FAP a passé une partie de vos éléments ont pu sauver des civils pris en otage? Est-ce que cela a renforcé quelque part les liens entre les populations et les militaires dans cette zone-là?
Donc, comme je vous l'ai dit, ces derniers mois, nous avons lancé des opérations d'envergure et ce qui nous a permis d'accomplir les résultats dont vous parlez. Mais dans cette lutte, l'apport de la population a été capital et nous demandons encore une fois leur soutien.
Voilà. Dans cette partie, ceux qui sont beaucoup plus tentés, ceux qui sont tentés par l'extrémisme violent, ceux qui sont tentés par l'envie de rejoindre les groupes armés non étatiques sont les jeunes. Est-ce qu'à ce niveau, vous faites quelque chose pour pouvoir contenir ces jeunes-là, pour leur empêcher d'intégrer ces groupes armés?
Vous savez que toutes les opérations militaires font des actions que nous appelons dans notre jargon militaire, actions civilo-militaires qui visent à nous rapprocher davantage. Nous ne nous substituons pas aux organisations non gouvernementales et à ceux qui en sont les spécialistes, mais dans des périodes où la violence est assez élevée, et l'armée peut apporter sa contribution et toutes nos opérations sont accompagnées d'actions dans ce sens.
Nous l'avons évoqué, ces accusations extrajudiciaires, ce sont des accusations qui ne sont pas encore confirmées par les États concernés. Est-ce que ce genre de comportement peut quelque part affecter la mission de la force conjointe antiterroriste de G5 Sahel?
Si nous regardons, ces accusations arrivent au moment où nos forces remportent des succès. Donc, légitimement, on peut dire que ces accusations visent à à ternir l'image de nos troupes et à saper les efforts que nous sommes en train de mener actuellement.
Une autre question, ces derniers temps, on constate une sorte de territorialisation du conflit. Au début, c'est l'espace G5 Sahel seulement qui est concerné, qui est régulièrement attaqué par des groupes jihadistes ou des groupes armés. Ces derniers temps, on constate une sorte d'expansion de ces conflits vers les pays côtiers, comme ce fut le cas ces derniers jours en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Vous avez enregistré tellement de succès qui font en sorte que ces groupes sont en train de quitter la zone du G5 Sahel?
Bon, cela s'explique par la nature même des groupes terroristes. Et ils ont toujours tendance à vouloir étendre leur influence. Et là où ils font face à des troupes, ils essaient de se dérober. C'est ce qui explique ce bascule vers d'autres pays. Et vous voyez que là prend tout le sens d'une force conjointe qui doit et avoir des compétences à travers plusieurs frontières et les renforts promis par l'Union africaine et bien sûr et la coopération entre les différentes armées viendront à bout de cette expansion.
Donc, mon général, si les autres pays qui ne sont pas dans la zone du G5 Sahel vous sollicitent, vous allez envoyer vos troupes pour traquer ces terroristes-là?
Bon, nous avons ce que nous appelons un concept stratégique qui guide nos opérations. Bien sûr, nous sommes ouverts à toute forme de coopération, mais les modalités seront toujours définies par nos autorités.
Voilà. Avant de finir, peut-être, mon général, nous allons encore un peu revenir sur cette force. Nous le savions, cette force, à un moment, nos chefs d'État l'ont dit, les médias l'ont rapporté, rencontre un problème financier pour pouvoir exercer réellement sa mission. À ce stade, est-ce que les problèmes financiers persistent toujours?
Moi, je vous dirais que nos États font d'énormes efforts pour soutenir la force. D'ailleurs, le soutien des bataillons est national. Et en plus de cela, nous avons nos partenaires comme l'Union européenne et les Nations unies. Mais bien sûr, la lutte contre le terrorisme est un combat de longue haleine. Et ça demande beaucoup de moyens. Mais nos autorités, nos partenaires font de leur mieux.
Voilà. Mon général, ces derniers temps, l'un des pays membres du G5 Sahel a été attaqué par des terroristes. J'ai fait allusion au Tchad, qui est un membre important de cette force. Mais la force en tant que telle n'a pas déplacé ses éléments pour pouvoir appuyer le Tchad. À ce niveau, vous attendez à ce que le Tchad appelle les éléments qui sont déployés un peu dans la zone où il y a des attaques répétitives, ou bien vous pouvez intervenir sans même que le Tchad fasse appel à vous?
Vous savez, lors de la mise en place de la force conjointe, et initialement, il a été décidé d'agir le long des frontières. C'est ce que je vous disais au début. Nos troupes sont le long des frontières. Nous avons deux bataillons tchadiens et un bataillon du Niger qui opèrent le long de la ligne frontalière et Tchad-Niger et ils nous couvrent, ils nous protègent face à la frontière libyenne. C'est ce qui est la zone initialement définie, mais si besoin et sur autorisation de nos autorités supérieures, et la force pourrait être amenée à intervenir sur toute la bande sahélo-saharienne.
Merci beaucoup, mon général. Je le souligne que beaucoup d'efforts ont été faits à ce niveau et vous continuez à fournir ces efforts aux populations pour les protéger. Une petite dernière question. Bien que beaucoup de choses sont faites, bien que des renforts sont attendus, jusque-là, certaines parties du Mali échappent au contrôle total du pouvoir central. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez un plan spécifique pour que le Mali recouvre son intégrité territoriale?
Pour la force conjointe, nous restons dans notre, chacun à sa zone d'opération. Nous sommes le long les 100 km du part des zones, des lignes frontalières entre les trois pays. Et toutes nos opérations sont conduites en partenariat, en étroite coordination avec les forces armées maliennes. Donc, nos actions sont liées surtout à notre zone d'opération.
Voilà, vous venez d'écouter Général de Brigade Mamari Camara, commandant adjoint de la force conjointe du G5 Sahel. Vous pouvez également suivre cet entretien sur 45 radios partenaires du studio Kalango sur toute l'étendue du territoire national. Vous pouvez également le suivre à travers notre site web, à travers aussi d'autres pages du studio Kalango, Facebook, Twitter. Merci beaucoup encore une fois de plus, mon général.
C'est moi qui vous remercie.